La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de la mêlée de l'info. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité nationale. Voici les trois invités de ce numéro. Je salue la première dans cette émission de Nadia Carfala, co-secrétaire générale de la Fédération du Parti Socialiste de Haute-Garonne. Et je salue aussi Jean-Luc Alimi, vice-président du CRIF Toulouse-Occitanie, et Pierre Lafont, conseiller municipal de Pêche-Beaunieu, référent des jeunes du Parti Les Républicains en Haute-Garonne. Bienvenue à tous les trois. Merci à Nadia Carfala pour sa confiance. Un sujet qui concerne la politique étrangère de la France pour commencer, que nous devons à une initiative d'Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé le 9 avril que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence qu'elle co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies. Il a ajouté que cette reconnaissance devrait mener au préalable à celle d'Israël par un certain nombre de pays qui lui sont aujourd'hui opposés. À ce jour, la proposition d'Emmanuel Macron est toujours rejetée par Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, et elle suscite des réactions plutôt contrastées dans la classe politique française. En ce qui vous concerne, l'annonce du président français vous paraît-elle opportune? Et croyez-vous que la fameuse solution à deux États soit envisageable à court terme, qu'elle puisse être une porte de sortie au conflit en cours entre le Hamas et Israël, et le prologue à une paix durable au Proche-Orient? C'est Jean-Luc Alimi qui va avoir la parole pour commencer.
Merci, bonsoir à tous. Alors non, cette initiative n'est pas opportune. Elle est considérée comme indécente, comme non connectée à la réalité, je vais y venir, comme incohérente et à l'arrivée potentiellement dangereuse. Alors tout d'abord, il faut rappeler que la guerre bat toujours son plein. Comment peut-on se dire ami d'une démocratie qui a été victime d'un crime contre l'humanité en octobre 2023? D'ailleurs, Macron l'a reconnu, il a même dit et redit que c'était le pire crime antisémite depuis la Shoah, ce qui est une réalité, malheureusement, tout en offrant, finalement, en récompensant cette barbarie à travers la connaissance d'un État, en récompensant cette barbarie qui s'est déchaînée en ce mois d'octobre 2023. Comment ignorer qu'offrir un État donc à une population qui malheureusement aujourd'hui est fanatisée, est imbibée de haine des Juifs dès l'école, ça a toujours été dénoncé mais ça n'a pas changé, qui ne saurait finalement faire autre chose que de chercher à la destruction d'Israël. Alors, elle est déconnectée de la réalité, puisque finalement Macron veut, dans un geste, on l'imagine, de bonne intention, d'aller vers la paix, donc créer un deuxième État palestinien. En fait, c'est un troisième, mais finalement une solution à deux États. Mais finalement, est-ce que les Palestiniens la veulent, cette solution à deux États? Aujourd'hui, ma réponse, c'est non, et j'y reviendrai. Et enfin, donc, il y a une position, alors que les paix ne sont pas pensées en Israël. Finalement, cette reconnaissance, alors qu'il reste encore 59 otages aux mains du Hamas, lui offrir une victoire politique spectaculaire, il ne faut pas se nier, donc ne fera certainement pas avancer la paix. Alors, très rapidement, pour ne pas monopoliser la parole, je passe d'abord sur l'aspect droit international, puisque on appelle toujours au droit international, notamment contre Israël. Il faut rappeler que pour créer un État, il y a une convention de Montevideo qui définit 4 critères. Aujourd'hui, au moins 3 sur 4 ne sont pas respectés. Le territoire défini, un gouvernement stable et surtout la volonté de vivre en harmonie avec et d'établir des relations avec les autres États. Ça, c'est le point de droit international, donc j'y passe rapidement. Rapidement. Par contre, la question est aujourd'hui, concrètement sur le fond, les Palestiniens veulent-ils de cette solution à deux États? Donc, puisque Macron et d'autres la veulent, mais la veulent-ils vraiment? Et c'est une vraie question. Est-ce que c'est une volonté, un désir, vraiment une attente? Et là, je suis désolé de le dire, mais telle qu'elle est présentée aujourd'hui, la réponse, c'est non. Alors d'abord, on parle beaucoup de solutions à deux États. Vous savez, moi, je suis un scientifique et j'aime bien les faits, et je ne supporte pas la propagande. Pour moi, c'est l'histoire, la géographie et le droit international. C'est là-dessus que doit se baser une réflexion sur ce sujet-là, qu'on soit d'accord ou pas. Ça, c'est le libre débat. Et d'abord, il y a un État arabe palestinien en Palestine qui existe depuis 102 ans. C'est la Jordanie qui a été créée sur le territoire de ce qu'on appelait à l'époque la Palestine mandataire, sur le territoire qui était prévu initialement par les accords de San Remo de 1920, donc à la construction d'un État juif en Palestine. Et donc là, on parle d'un deuxième État. Mais même s'agissant d'un deuxième État, est-ce que les Palestiniens le veulent d'abord? Est-ce qu'ils l'ont voulu dans le passé? Et là, l'histoire. Hein. En 1938, la commission Peel se prononce sur une solution à deux États, un État juif et un État arabe, parce que la notion de peuple palestinien n'existait pas à l'époque. La réponse était clairement non du côté arabe. En 1947, il y a eu la fameuse résolution 181 des Nations Unies, avec un territoire très très exigu pour les Juifs, très loin de ce qui leur avait été promis par la conférence de San Remo, ils l'ont accepté. Les Arabes l'ont refusé. Après, il y a eu 1967, le triple nom de Khartoum. Il y a eu Camp David et le nom de Yasser Arafat, alors que tout le monde, et moi le premier, était persuadé que ça y est, on y était, la paix était là, à portée de la main. Il y a eu Annapolis, en 2008, avec près de 97%, enfin tout Gaza et 97% de la Cisjordanie, qui devait être donc transmis aux Palestiniens, et la moitié de Jérusalem, ça a été refusé. Donc, sans parler de l'initiative française en 2016, le plan Trump en 2020. Donc, ils l'ont jamais voulu. Mais aujourd'hui, on pourrait dire, bon, ils ne l'ont pas voulu, ils ont raté le train de l'histoire, mais le veulent-ils réellement aujourd'hui? Le problème, est-ce que le Hamas veut un État palestinien? Mais absolument pas. Et là, je dirais, c'est pas un avis, c'est pas une opinion. Le Hamas, ce sont les frères musulmans, c'est une émanation des frères musulmans. Eux, ils veulent une communauté musulmane sur tout le territoire. Ils veulent absolument pas entendre parler d'un État. Et quant à l'autorité palestinienne, je dirais, sa volonté a été clairement affichée. Elle ne veut pas de ce qu'on appelle une solution à deux États, d'un État vivant côte à côte et en harmonie avec un État juif. Elle ne reconnaît pas le caractère juif d'Israël. Elle ne veut pas le reconnaître. Et elle a toujours dit, finalement, aujourd'hui, on voit les slogans, donc un seul État, donc de la rivière à la mer,
from the river to the sea.
De la Méditerranée jusqu'au Jourdain, c'est-à-dire c'est un seul État sur les ruines d'Israël. Et je rappelle que après les accords d'Oslo, on a eu une déclaration à l'époque d'Arafat, hein, donc en 93, qui disait finalement ce traité de paix, c'est comme finalement le prophète Mahomet a conclu les accords avec les Juifs, qu'on appelle de Houdibaya, où tant qu'on est en position de faiblesse, on accepte un accord, et après, donc finalement, on renverse la vapeur et on prend ce qui est considéré comme nous appartenant. Et puis, l'un des responsables à l'époque, en 2001, de l'OLP, de l'autorité palestinienne, qui s'appelait donc Al-Husseini, avait dit, mais les accords d'Oslo, mais voyons, c'est un cheval de Troie, ça n'est rien d'autre. C'est un cheval de Troie, la finalité étant bien de bâtir une Palestine à la place d'Israël. Voilà, donc si vous voulez, donc dire qu'aujourd'hui, donc vouloir faire la paix, contribuer, on ne peut que saluer, mais se déconnecter de cette réalité, ça n'est pas possible, et donc on ne peut pas parler à la place des gens, ni nier ce qu'ils veulent profondément, et ce qu'ils veulent, je répète, hein, que la majorité, et croyez-moi, je le regrette, l'immense majorité des Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, aujourd'hui, ont applaudi donc à ce crime contre l'humanité du 7 octobre. Et je termine en disant que déconnectée des réalités, elle est incohérente. Quand Emmanuel Macron va en Israël quelques jours après les massacres, il dit officiellement, clairement, qu'il est pour l'éradication du Hamas, y compris ses propres mots, à travers donc une coalition internationale. Puis après, changement de ton et de position, il veut un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et là, aujourd'hui, il est prêt à offrir une victoire politique récompensant le terrorisme. Non, on ne peut pas bâtir la paix en récompensant le terrorisme. Ça n'est pas possible. Je terminerai juste en disant que cette initiative se place également dans la grande conférence qui est prévue au mois de juin avec l'Arabie Saoudite.
Aux Nations Unies.
Absolument, aux Nations Unies. Et il y a encore deux jours, l'Arabie Saoudite et le prince Mohammed Ben Salman a dit, alors on ne peut plus clairement, le problème palestinien, ça n'est pas
oui,
mon
c'est
problème.
Pas, c'est pas
mon
le
problème, c'est l'Arabie Saoudite. On doit se moderniser. Oui. On n'est pas là pour défendre les radicaux. Oui. Donc cette cause n'est pas la mienne. Et je terminerai juste, et en un mot, en disant qu'elle est dangereuse, tout simplement parce qu'il ne faut pas se déplorer, hein, au-delà de ce caractère incendiaire dans la région, de déstabiliser la région, d'apporter la violence, ça apporte également la violence ici. Car lorsqu'on défend, finalement, on récompense le terrorisme, l'islamisme et la haine des juifs là-bas, eh bien ici, ça nourrit ici l'islamisme, ça nourrit l'antisémitisme. Et quand on connaît la situation, plus de 1600 actes antisémites en une année, eh bien c'est lié ici. Et c'est bien pour cela que le CRIF se permet d'intervenir et porte sa voix sur la situation en France. Les deux ne sont pas décorrélés.
Oui. Alors, on reviendra sur plusieurs points que vous avez évoqués. Là, bon, votre avis est très tranché, très circonstancié, avec notamment des rappels historiques. Nadia Carfala, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative d'Emmanuel Macron? Est-ce que c'était le moment de relancer ce projet là, qui ressort régulièrement, d'une solution à deux États, et donc de reconnaître l'État palestinien par la France et d'autres pays, parce que c'est aussi ce qu'il veut?
Oui, je vais m'en tenir à la question et à notre position historique, celle du Parti socialiste, qui est la solution à deux États que nous prônons, que nous affirmons depuis des années et que nous avons tenté de réaffirmer également à de nombreuses reprises depuis le 7 octobre, que nous avons condamné bien entendu les actes terroristes du groupe du Hamas. Et que nous sommes évidemment pour un cessez-le-feu, que nous sommes également pour la libération, bien entendu, des otages et de tous les prisonniers politiques, et bien entendu, bah, du coup, pour la reconnaissance de l'État palestinien. Cette reconnaissance de l'État palestinien, elle s'inscrit du coup dans une volonté de paix. C'est pour ça que nous saluons, bien que tardivement, puisque la France, quand même, c'est toujours, à part Emmanuel Macron, mais c'est toujours inscrit dans une volonté de solution à deux États, même de Gaulle, c'est toujours inscrit dans cette volonté-là, donc nous la saluons, nous déplorons qu'elle arrive bien tardivement, puisque à l'heure actuelle, on peut quand même décompter quasiment 50 000 morts civils sous la gouvernance de Benjamin Netanyahou. Et également les 100 000 blessés qu'on rencontre à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment une position qui n'est pas du tout hors sol, puisque par exemple les guerriers de la paix portent également cette solution et ont salué, puisque nous estimons que cette solution à des États va permettre de poser également le débat face à l'Iran, qui souhaite notamment ne pas reconnaître l'État israélien, et de contrer cela en proposant une solution de paix, en montrant que, en effet, nous pouvons coexister, et ces deux États, puisque il est évident que nous sommes pour que Israël se défende et soit en sécurité, et nous estimons du coup que cette solution à deux États puisse amener à cette sécurité-là. Et également, du coup, au droit des Palestiniens de pouvoir vivre et d'être reconnus comme tels, sans pour autant être sous une menace perpétuelle ces dernières années, et notamment depuis le 7 octobre, puisque malheureusement, ils ne sont pas dépendants de ce qu'a fait le Hamas, et que nous condamnons totalement, puisque nous pensons que le Hamas se fait le faux porte-voix de la voix palestinienne, et que de nombreux Palestiniens ont tenté de fuir. Mais on condamne également cette réponse démesurée maintenant depuis quelques années de Benjamin Netanyahou, et notamment sur la bande à Gaza, puisque également tout ce qui va être aide humanitaire a été coupé. Et lorsque nous condamnons Vladimir Poutine sur ce qui se passe en Ukraine, on ne peut pas faire à géométrie variable notre vision du droit international et du droit à se défendre. Donc, si nous condamnons Vladimir Poutine, nous devons à hauteur égale condamner le processus qu'est en train d'opérer l'armée israélienne et Benjamin Netanyahou.
Donc, vous pensez que l'initiative d'Emmanuel Macron pourrait aboutir, parce qu'il a mis quand même plusieurs préalables même, à la reconnaissance de l'État palestinien par la France. Il faut aussi qu'Israël soit reconnu par les pays qui aujourd'hui ne veulent pas en entendre parler.
J'espère que, en effet, ça va pouvoir voir le jour, et je pense qu'il y a quand même, quand on voit par exemple le président égyptien qui salue cette solution et qui espère pouvoir revenir, tout en reconnaissant bien sûr la solution à deux États et donc de facto la reconnaissance de l'État israélien et palestinien, je pense que nous sommes en bonne voie. Également au niveau de l'ONU, quand même 148 pays ont reconnu la la présence de l'État palestinien, même s'ils ne sont pas membres, mais observateurs. Donc oui, nous espérons que ça puisse voir le bout, même si on espère que ça, on constate quand même que ça arrive un peu tardivement, mais bien entendu qu'on espère que ça puisse se faire.
Alors, on reviendra aussi sur ce point. Pierre Lafond, vous, l'initiative d'Emmanuel Macron, vous en pensez quoi ?
Alors, bonsoir à tous. Merci, Eric, pour votre invitation. Déjà, contextuellement, il y a une énorme notion de forme versus le fond dans cette histoire. Et comme d'habitude avec Emmanuel Macron, on est plus sur de la forme. Il n'a pas fait grand-chose au cours de ses 8 ans. Et là, il s'est copieusement raté et son comportement est très malsain, je crois, parce que la guerre qu'il y a entre la Palestine et Israël dure depuis 80 ans, et il a fallu qu'il tente cette démarche de reconnaissance dans cette séquence qui dure depuis 2 ans, qui a commencé par l'attaque terroriste insupportable du Hamas. Donc on avait 80 ans pour le faire et Macron tente de le faire maintenant. Donc,
pour vous, c'est pas le bon moment, si je comprends bien.
C'est clairement pas le bon moment. C'est-à-dire que sur les 200 pays du monde, 150 à peu près ont déjà reconnu. La plupart l'avaient déjà fait avant. À long terme, une solution à 2 États, je crois que c'est la seule solution, effectivement. À court terme, c'est absurde et c'est vraiment donner raison aux terroristes du Hamas. Il y a l'éternelle dualité, qu'est-ce que des terroristes, qu'est-ce que des résistants, c'est une question de point de vue, mais là on est face à un groupe qui sème la terreur, qui a violé des femmes, assassiné, démembré des bébés. Donc la solution ne peut passer que par l'éradication absolue du Hamas dans un premier temps, et les conséquences du comportement de Benjamin Netanyahou qui probablement est allé trop loin à certains moments. Je crois que c'est l'élément secondaire pour envisager la suite. Et comme je disais souvent avec Macron, on est que sur de la forme, le en même temps, satisfaire les uns les autres, tout en sachant qu'il y a des communautés en France qui sont très tendues. Il met de l'huile sur le feu et aussi ça montre à quel point il est au pied du mur en réalité. Il n'est plus que sur son domaine réservé de président. Je me suis amusé quand j'ai préparé cette émission à regarder sur Twitter ses derniers tweets, et sur 5 jours il n'a parlé que de politique étrangère, 21 tweets dans toutes les langues. Il s'adresse au Pérou, à l'Égypte, à Gaza, etc. Et donc ça montre qu'il n'a plus aucun pouvoir en France. Et
il essaie d'occuper le terrain médiatique aussi par des initiatives de ce genre, c'est ce que vous pensez ?
Oui, absolument. Et j'ajouterais aussi que Macron, une fois de plus, engage la France. On dirait qu'il n'y a rien en retour. C'est-à-dire que en Ukraine, Trump négocie, est prêt à aider l'Ukraine en échange d'hydrocarbures, etc. Nous, comme d'habitude, il n'y a aucune raison d'État. On est avec nos grands principes, etc. Mais quel est l'intérêt de la France dans cette histoire ? On perd notre énergie et on se mêle quelque part de ce qui ne nous regarde pas tant que ça, je pense, à mettre de l'huile comme ça sur le feu. C'est une impasse, on sait très bien que ça ne va pas aboutir, voire c'est très négatif.
Un point tout de même, Nadia Carfala, oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut aboutir à une reconnaissance de l'État palestinien par la France et d'autres pays, oui, avec le Hamas toujours qui tient la Palestine sous sa coupe, et notamment la bande de Gaza ?
Je pense que le Hamas ne tient de moins en moins l'État palestinien, et notamment on a pu le voir avec les récentes insurrections de la part de Palestiniens qui ont quand même manifesté avec des pancartes en disant Hamas dehors, nous on veut la paix, s'il vous plaît faites un effort, arrêtez, partez, fuyez. Je pense qu'il faut avoir confiance au peuple palestinien pour dénoncer, vu les atrocités qu'ils sont en train de vivre et vu la condamnation, puisque quand même ce sont des civils qui sont morts le 7 octobre. Je suis sûre et certaine, et je pense qu'il faut avoir de la conviction en l'État palestinien, aux Palestiniens, de jeter dehors également.
De s'affranchir du Hamas. Vous pensez que c'est possible, ça ?
Oui, j'en suis sûre et certaine. J'en suis sûre et certaine. Et je pense que si c'est aidé également par des pays limitrophes comme l'Égypte et d'autres pays du Proche-Orient, je pense que en effet nous pourrons enfin sortir enfin le Hamas de
Vous savez que c'est dans leur charte, Israël, c'est ça disparaît.
Mais hein, nous, on condamne le Hamas, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas le Hamas comme la voix des Palestiniens.
Jean-Luc Halimi, parce qu'une solution à deux États, très bien, un État palestinien, très bien, mais encore faut-il savoir qui va diriger l'État en question. Et aujourd'hui, vous croyez que les Palestiniens peuvent s'affranchir du Hamas?
Non, c'est un vœu pieux.
Alors, j'observe
que on voit des manifestations de Gazaouis contre le Hamas, et on connaît la sauvagerie du Hamas, on sait sous quel régime il vise, qui est d'ailleurs très peu relayé. Hein. Je dois dire que là, dès qu'il s'agit de criminaliser Israël et de faire basser la population, voir le Hamas comme mouvement de résistance, on entend par contre cette couverture des gens qui protestent. Après, moi je suis très réservé, c'est un vœu pieux. Le Hamas refuse actuellement, on le voit bien sûr, tout plan, tout accord de libération d'otages qui prévoirait un désarmement. Et concernant la population palestinienne, là je suis désolé, hein, je comprends très bien votre vision tout à fait donc humanitaire des choses. Malheureusement, les otages ont été enlevés, les massacres ont été commis par le Hamas, les otages ont été enlevé par le Hamas et le djihad islamique. La population palestinienne a participé à ces massacres. Elle a dit où étaient les lieux dans les kibboutz. Enfin, je rappelle que, on a parlé avec des Israéliens. Alors, les Israéliens qui habitaient dans ces kibboutz, je le rappelle quand même, étaient à la gauche de la gauche. Ils ne pouvaient pas être plus pro-palestiniens qu'on peut l'être ici. Ils considéraient que c'était leurs frères, qu'ils étaient maltraités. Ils leur donnaient un travail, ils leur donnaient un salaire. Et ils les accompagnaient eux-mêmes en voiture à l'hôpital, eux et leurs enfants, pour se faire soigner. Et quand ils les ont vus exulter, dire quelle porte fallait ouvrir pour perpétrer ce massacre, eux-mêmes ont dit on a été trahis. Et sur les otages, je suis désolé de le dire, vous savez, dans une semaine on va commémorer Yom HaShoah, on commémore bien sûr ce qui s'est passé, dont le 7 octobre est une réplique. On rend hommage aux justes. Il n'y a eu aucun juste dans la bande de Gaza. Personne, et ce sont les otages qui le disent, personne ne les a secourus, aucune main s'est levée. Alors, quand on dit, et ça, croyez-moi, hein, de ma part, ça n'est pas du tout, rien de la propagande, vraiment, c'est une réalité, que c'est une population qui a été mais imbibée de haine des juifs, mais dès l'école. Vous dites on croit, mais comment vous voulez croire quand une population dès l'école a des manuels scolaires qui leur enseignent la haine des juifs, et sur nos fonds européens notamment, c'est impossible. Elle a été éduquée à la haine, elle est fanatisée. Il suffit de voir comment les Gazaouis ont réagi lorsque le Hamas est arrivé avec les otages, comment ils ont traité les otages, comment aujourd'hui ils considèrent. Aujourd'hui, elle ne veut pas la paix. Alors, dire c'est une chance, moi je dirais, ok, il y a déjà un État arabe palestinien, c'est la Jordanie. Est-ce qu'il a ça apporté la paix? Il existe depuis 102 ans. Est-ce que cet État arabe palestinien a apporté la paix? Non. Maintenant, je reviens toujours à l'histoire. Entre 1948 et 1967, donc la guerre d'indépendance et la guerre des six jours, tout Gaza et 100% de la Cisjordanie était tenue par les Arabes. C'est un fait historique. Est-ce qu'il y a eu un début de création, de mise en place d'un État palestinien? Non, absolument pas. Et notamment parce que jusqu'à ce moment-là, la notion même de peuple palestinien n'existait pas. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas du tout une forme de mépris de ma part, hein, mais vraiment pas du tout. Hein. C'est de l'histoire. On sait très bien que le concept de peuple palestinien a été largement conçu dans les bureaux du KGB. C'était à l'époque de la guerre froide, un outil contre, entre guillemets, donc l'Occident colonialiste, etc., à laquelle Israël était associé. Pourquoi ils n'ont pas conçu, mis en place les bases d'un État palestinien alors qu'il n'y avait aucun juif, aucun israélien? Non. Et aujourd'hui, je répète, la réalité dans ces territoires-là est que c'est la haine d'Israël. Et lorsque vous écoutez les Palestiniens et les responsables, alors vous me dites le Hamas, je l'ai dit tout à l'heure, lui, il ne veut absolument pas d'un État. Quant à Mahmoud Abbas, écoutez, il a été élu en 2004 pour 5 ans, et ça fait donc depuis 2009 qu'il est président illégitime
de Palestine.
Oui, non, mais d'autorité. Mais il n'y a plus eu d'élection depuis 2009. Et bon, on sait très bien que c'est une autorité palestinienne totalement corrompue, mais sur le fond, vis-à-vis de ça, elle ne veut pas la paix. Parce que même s'il s'agissait d'un troisième État, on pourrait dire, bon, c'est... C'est quand même bizarre, c'est bizarre de faire un troisième État alors qu'il y a déjà 22, mais on pourrait dire pourquoi pas si ça peut amener la paix. Mais est-ce qu'ils veulent la paix? Non, aujourd'hui, non. Et leur position est claire, c'est un seul État, de la rivière à la mer, sur les ruines de l'État d'Israël. C'est ça leur position. C'est les accords d'Oslo, tous les accords, c'est un cheval de Troie. Donc à partir du moment, il faut être deux pour danser. Donc la paix. Donc c'est pour ça que là, une initiative de paix, moi je ne reprocherai jamais à Emmanuel Macron. Alors c'est sûr qu'il est en difficulté après la dissolution.
Sur le plan intérieur, vous voulez dire.
Et à la limite, on comprend qu'il essaie de se rattraper sur son domaine réservé.
Et d'exister dans son
domaine
réservé.
Moi je ne reprocherai pas. Mais on ne peut pas lancer des initiatives donc qui seront payées par les autres. Parce que ce genre d'initiative qu'on pourrait croire comme étant positive, allant vers la paix, elle n'amènera malheureusement que de la violence et de la guerre dans la région.
Mais quand il dit il faut au préalable que les pays qui aujourd'hui ne reconnaissent pas l'État d'Israël le reconnaissent, par exemple, on prend l'Iran, on imagine que le pouvoir actuel en Iran pourrait reconnaître Israël aujourd'hui?
C'est une plaisanterie.
Ça paraît aussi
C'est une plaisanterie sur la nature même de ce régime. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas le terme d'Israël. Hein. Ils parlent d'entité sioniste. Donc, bien sûr, c'est même pas imaginable.
Pierre Lafond, vous voulez réagir et après Nadia Carfala.
Oui, d'ailleurs, je suis assez amusé par l'idée de reconnaissance, alors qu'il y a des situations de fait. Quand on y réfléchit, est-ce que les États s'administrent par eux-mêmes et ont une population, un territoire? Oui, donc on est vraiment sur de la négociation arbitraire. Mais ce qui compte pour moi dans cette histoire, parce que on va pas, un conflit de 80 ans ne va pas se régler comme ça, c'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire que j'ai 25 ans, j'ai grandi pendant à peu près 23 ans dans un pays où l'antisémitisme était durement sanctionné, comme il le fallait, je crois. Et je sens que depuis 2 ans, les portes sont grandes ouvertes. Et Macron ne participe pas à la concorde nationale qu'il doit imposer. On le voit à l'exode massif des Juifs en Israël aujourd'hui.
Dans un pays qui est en guerre en plus.
Voilà, oui. Mais là, finalement, ils ont plus peur de vivre en France qu'en Israël. C'est fou. Le nombre d'actes antisémites qui explosent, c'est la religion la plus concernée aujourd'hui. Et aussi l'entrisme des élus, notamment LFI, qu'il y a en France. Pour moi, quelqu'un qui n'a qu'à la bouche des faits politiques qui se passent à l'étranger n'a pas vocation à être français. Et typiquement Rima Hassan, elle est élue française au Parlement européen. Je ne comprends pas comment on peut accepter quelque chose comme ça. Elle ne défendra jamais les Français sur quelque sujet que ce soit. Elle ne parle que de la Palestine. Je trouve ça insupportable. Et même le temps consacré à ce sujet, alors qu'il y a tellement de guerres dans le monde, au Soudan, au Yémen, à Taïwan, ça monte, l'Ukraine, évidemment.
Il y a sort des Ouïghours aussi en Chine.
Aussi. Donc, c'est finalement, il y a une visée électoraliste là derrière, donc clairement antisémite, pro-islam, qui est très inquiétante, une communautarisation de la France. Donc voilà, je dérive un peu du sujet, mais je crois que c'est le fond finalement.
C'est une conséquence,
l'enjeu.
Nadia Carfala.
Oui, je voudrais revenir. J'entends l'aspect historique, j'entends l'aspect électoraliste. Sauf qu'en fait, et peut-être que ma vision est bien trop humaniste ou une volonté humaniste, ça n'empêche que comment peut-on à l'heure actuelle, face à la rétorque disproportionnée, puisque je ne parle pas sur les premières rétorques, mais actuellement, depuis un an, un peu plus d'un an.
Vous parlez de la réponse
de Benjamin Netanyahu. Comment peut-on raisonner à l'heure actuelle Benjamin Netanyahu d'envoyer, de bombarder des femmes et des enfants qui meurent à l'heure actuelle? Comment peut-on condamner ce qui s'est passé légitimement le 7 octobre et ne pas condamner cette réponse disproportionnée? Comment peut-on laisser perpétuer? C'est-à-dire que, ok, ça ne nous regarde pas, peut-être, c'est loin de chez nous. Comment peut-on, en tant qu'humaniste, en tant que citoyen, continuer à regarder ce massacre, tout en se disant, ça ne nous regarde pas, on détourne. Le droit international existe. On le condamne pour Vladimir Poutine. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement avoir de contrepartie dans toute volonté. On le condamne pour Vladimir Poutine. Je pense qu'il est légitime qu'on le condamne de ce qui se passe par le gouvernement israélien. Et je tiens à préciser, le gouvernement israélien. Je parle du gouvernement israélien. Comment peut-on accepter quand même. Puis quand on voit Trump qui ose faire la Gaza Riviera en parlant d'un potentiel déplacement du peuple, quand même cette colonisation qui a lieu également en Cisjordanie, comment peut-on ouvertement dire, fermer les yeux et prétendre que rien ne se passe et dire que cette solution peut-être pour vous ou certains est utopique, mais comment peut-on trouver une raison de solution pour que on arrête ces bombardements et que les gens puissent vivre librement? Je pense qu'à l'heure actuelle, j'entends cet endoctrinement de la part du groupe terroriste du Hamas, notamment dès l'enfance, et on a pu le retrouver également sous le gouvernement Vichy. Enfin voilà. Je ne nie pas et je ne défendrai jamais le Hamas. Jamais. Par contre, ça fait des années, là, ça fait à peu près un an qu'ils n'ont même plus d'école, ces enfants. Donc vous ne pensez pas quand même qu'il y a eu un réveil de la population palestinienne qui subit ces bombardements, qui est victime en fait, qui se retrouve prise dans un étau? Comment vous pensez vraiment que ces gens-là, une fois qu'on leur a offert du coup cette solution à deux États, qu'ils ne vont pas se révolter face au Hamas? Et parce que quand même ils sont la conséquence la conséquence de l'impunité et de l'inhumanité du Hamas. Moi je crois sincèrement le Hamas n'a pas toujours dirigé la bande de Gaza et notamment la Cisjordanie. Hein. Ça n'a pas toujours été le cas le cas. Moi je crois au peuple palestinien qui subit et qui est la première victime de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et évidemment que nous lutterons pour qu'il y ait la libération de l'otage et qu'on puisse enfin mettre fin, et se démanteler ce groupe terroriste qu'est le Hamas.
Jean-Luc Aymi.
Juste quelques mots quand même. Il faut quand même se baser sur des réalités. Alors, on parle beaucoup de Benjamin Netanyahou. Alors, ça a l'air très, très, très pratique hein, de taper sur Benjamin Netanyahou. Je rappelle quand même que Israël n'est pas une république bananière, qu'il a été le premier ministre nommé à la suite d'élections tout à fait démocratiques, transparentes. Le peuple israélien a décidé. Il a décidé et Netanyahou s'est retrouvé premier ministre. Cette guerre, il l'a pas décidée, elle lui a été imposée par ce crime contre l'humanité. Ça c'est une première chose. On parle beaucoup de Netanyahou, mais il faudra avoir un petit peu de respect quand même sur la démocratie israélienne où on respecte les démocraties et donc les dirigeants élus. Et croyez-moi, c'est pas au CRIF qu'on reprochera qui que ce soit de critiquer une politique, qu'elle soit du gouvernement israélien ou de tout autre gouvernement. Mais critiquer est une chose, dénigrer, criminaliser gratuitement en est une autre. Et c'est bien ça le problème. Ensuite, le Gaza, désolé, mais vous parliez tout à l'heure de 50 000 morts. Qui dit 50 000 morts? Le Hamas vient, il y a une semaine, d'avouer qu'en fait, finalement, 70% des victimes étaient donc des hommes, des adultes. Donc après avoir dit le contraire pendant 18 mois. Alors, on vous prend... Et on prend les défendants de la cause palestinienne pour des gogos, finalement, avec des chiffres fantaisistes, mais on joue pas avec ça. Il faut quand même ne pas oublier, puisqu'on critique quand même cette guerre qui a été imposée. Et je rappelle que Emmanuel Macron, qui est aujourd'hui à l'initiative, l'auteur de cette initiative, lui-même a dit, et je répète ses mots, le Hamas doit être éradiqué, s'il le faut, par une coalition internationale, comme on a fait pour l'État islamique. Ensuite, vous dites, barbarie, Gaza, bombardement, il y a une chose tout de même, ne pas oublier que par exemple pendant les deux premiers jours, il y a eu 50 000 SMS et coups de téléphone donnés à la population. Moi, j'ai pas vu, excusez-moi, mais beaucoup de conflits dans le monde où un agresseur multiplie des dizaines de milliers de coups de fil de SMS pour demander à la population de se protéger. Ensuite, question, pourquoi est-ce que, alors qu'il y a près de 1000 km de tunnels à Gaza, pourquoi la population n'a pas été protégée par le Hamas qui lui a dit de rentrer dans les tunnels. C'est une première chose. Et enfin, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et même si toutes les victimes sont toujours évidemment civiles à déplorer, toutes les vies se valent. toutes les vies se valent. Malheureusement, toutes les morts ne se valent pas. Et c'est bien ça le problème ici. Il y a une différence entre prendre, enlever, étrangler de ses mains un enfant de 9 mois qui s'appelle Ariel Bibas et son frère Kfir Bibas, étrangler après l'avoir mutilé. D'accord, ça c'est un assassinat. Quand une armée donc bombarde le Hamas qui prend la population comme bouclier civil, ça n'est pas un assassinat. C'est une tragédie, personne ne dira le contraire, mais on ne peut pas mettre les deux sur le même plan. Donc je répète, hein, toutes les vies se valent certainement, mais toutes les morts, non. Et donc il faut quand même, à part où une guerre a été imposée à Israël, où le Hamas utilise sa propre population comme bouclier humain qui ne les protège pas, et vous parliez d'écoles, oui, mais les écoles ont été investies par le Hamas pour y déposer des armes et en faire des QG militaires, les hôpitaux également. Alors moi je veux bien qu'on dise Israël attaque des hôpitaux, mais regardez le droit international, ils disent que si un lieu tel qu'un hôpital a été transformé en un lieu donc de détention d'armes militaires, d'utilisation à des fins militaires, il devient une cible militaire. C'est le droit international. Donc croyez-moi, personne ne prend plaisir donc à bombarder des hôpitaux où il y a le Hamas et des zones. Aucune armée n'a été exposée à cette situation avec une zone aussi densément peuplée. Mais avant de criminaliser Netanyahou et puis l'armée israélienne, alors qu'elle fait quand même énormément pour essayer de limiter les victimes civiles en définissant des lieux, en demandant à la population de se déplacer dans des lieux, je crois qu'il faut être un petit peu honnête par rapport à la propagande du Hamas, je répète, qui lui, dont le but il est clair, ça je pense qu'on peut le partager, le Hamas a tout intérêt à ce qu'il y ait des dizaines et même des centaines de milliers de morts civiles à Gaza.
Mais je pense que Nadia Karfala est d'accord avec vous sur le fait que le Hamas prend la population palestinienne en otage. Par contre, vous pensez que le peuple pourra s'affranchir du Hamas à un moment donné?
Oui,
je
ne
pense pas que Jean-Luc Halimi y croit, lui.
Non, oui, tout à fait. Non, mais je ne me fais pas l'avocate du Hamas, puisque je suis contre le Hamas et que nous l'avons condamné et que nous estimons que c'est un groupe terroriste et que nous souhaitons absolument pouvoir le démanteler. Donc, nous sommes contre le Hamas. Moi, je ne me fais pas la défendresse du Hamas. Ce n'est pas parce que j'incrimine le comportement à l'heure actuelle et notamment l'arrêt, par exemple, dans la bande de Gaza de l'aide humanitaire. Pardon, mais c'est factuel. C'est l'aide humanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas le Hamas. Ce n'est pas une affabulation que nous avons prise et que nous avons inventée. C'est ça que je condamne. Moi, je condamne cette inhumanité à l'heure actuelle dont fait preuve Benjamin Netanyahou. Je ne condamne pas ni que ce soit le droit d'Israël de vouloir se défendre, qui est légitime et qui est juste, puisque ce qu'ils ont vécu, notamment le 7 octobre, est plus que condamnable et en effet est un crime contre l'humanité. Et antisémite, que vous souhaitez également se battre contre le Hamas, il est légitime et je suis sûre et certaine que nous aiderons notamment à démanteler le Hamas, puisque nous sommes contre le Hamas. Par contre, il y a quand même des faits, et notamment par exemple des journalistes qui ne parviennent plus à rentrer sur le territoire de la bande de Gaza, et de nombreux journalistes, qu'importe le bord confondu, ont quand même constaté qu'il y avait une opacité sur les informations que nous descendons, également pour l'aide humanitaire. Donc il y a une proportion sur laquelle j'estime on ne peut pas être à géométrie variable, adopter une position hypocrite en disant on condamne Vladimir Poutine, mais on ne condamne pas Benjamin Netanyahou. Se défendre, oui, mais ça doit respecter certaines règles du droit international, et à l'heure actuelle, elles ne sont pas respectées.
Pierre Lafond, pour terminer sur ce sujet, je vous donne la parole pour conclure. Vous, est-ce que vous croyez que le peuple palestinien pourra s'affranchir du Hamas à un moment donné, se révolter, parce que ça passera par une révolte?
On n'a pas beaucoup parlé de la distinction entre d'ailleurs la Cisjordanie et Gaza. Je crois que la Cisjordanie est un gouvernement un peu plus avancé, sans parler de démocratie, derrière Mahmoud Abbas. Le Hamas, que je sache, n'est que sur le territoire de Gaza. Donc il faut distinguer tout ça. Je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet, qu'on se répète un petit peu, mais le Hamas a vocation à totalement disparaître. Après, qui va gérer le territoire de Gaza ensuite, c'est une bonne question. Je préfère toujours entendre un Trump qui parle de Riviera, ça veut dire du progrès, de la technologie, de la construction, de la croissance, plutôt que rien du tout.
Et Juste
très vite, s'il vous plaît.
Très, très vite. Il y a un point quand même qui n'est pas souvent soulevé, c'est vous parliez de reprise de géométrie variable, justement par rapport à l'initiative de Macron. Moi, il y a une chose qui m'a toujours surpris depuis 18 mois, mais alors je le dis simplement, hein, on peut ne pas être en accord, mais quand quelqu'un veut la paix, il doit vouloir la paix dans tous les cas et dans tous les conflits. Je n'ai toujours pas compris comment... Pourquoi Emmanuel Macron, du matin au soir, a demandé à harceler Israël pour un cessez-le-feu immédiat et sans condition, tout en œuvrant dans le même temps, toujours le en même temps, pour la poursuite de la guerre en Ukraine, sachant que Poutine est un criminel, donc c'est pas moi qui vais le défendre, mais je dirais, là, il y a quelque chose, parce que en Ukraine, et c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'est tout un peuple qui est en train d'être détruit, toutes les forces vives, d'ailleurs, vont bientôt être détruites,
et
là, cessez-le-feu à Gaza et poursuite de la guerre en Ukraine jusqu'à la victoire, entre guillemets, de l'Ukraine, une victoire illusoire et tragique, là, pour moi, c'est une incohérence qui n'a pas, malheureusement, toujours été soulevée.
Alors, c'est un autre sujet, mais effectivement, vous faites bien d'en parler, nous verrons, en tout cas, si la volonté et la proposition d'Emmanuel Macron quant à la reconnaissance de l'État palestinien se concrétise dans les mois à venir. Après ce débat, on peut en douter, mais qui sait. Petite pause dans cette émission et retour dans une vingtaine de secondes pour débattre d'un autre sujet. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie de mes trois invités, Nadia Carfala, Jean-Luc Halimi et Pierre Lafond, à qui je propose de débattre d'un autre sujet de politique étrangère qui a occupé la une de l'actualité ces derniers jours, avec encore un regain de tension entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron ayant donné l'ordre d'expulser 12 agents servant dans le réseau consulaire et diplomatique algérien en France. Il a rappelé également l'ambassadeur français à Alger, Stéphane Romaté. Cette action fait suite à la décision du pouvoir algérien de déclarer indésirables à Alger 12 fonctionnaires français du ministère de l'Intérieur en leur donnant 48 heures pour quitter l'Algérie et ce pour répondre à l'arrestation et la mise en détention d'un agent consulaire algérien en France. Nous assistons donc à une nouvelle escalade dans les tensions franco-algériennes. Alors que la récente discussion téléphonique qu'avaient eu le président français et le président Tebboune laissait entrevoir une possibilité d'apaisement et une réconciliation entre les deux pays, est-ce que vous approuvez la décision d'État français de réagir fermement à l'expulsion de ses agents diplomatiques à Alger et comment envisagez-vous maintenant la suite des relations franco-algériennes au moment où l'on espérait une libération prochaine de notre compatriote l'écrivain Boualem Sansal ? Pierre Lafond.
Ben, je suis sur la ligne de Bruno Retailleau, très très bon ministre de l'Intérieur, que je soutiens.
Vous m'auriez dit le contraire, je vous aurais pas cru.
On est face à, comme on l'a dit dans le débat précédent, un Emmanuel Macron, une fois de plus, fébrile, qui a beaucoup de mal à prendre des décisions, un ministre des Affaires étrangères insipide, transparent et fébrile. Et je crois qu'il faut aller au bout des choses. Et François Bayrou aussi, qui s'adapte à Bruno Retailleau, qui est vraiment celui qui donne le rythme actuellement. Et je crois qu'il faut aller au bout des choses, révoquer les accords entre la France et l'Algérie.
Les accords de 68, là.
Les accords de 68 et qui ont été aussi modifiés en 1994. Il faut faire table rase et remettre les choses complètement à plat. Parce que l'Algérie se comporte comme un pays belliqueux envers la France qui comme un État qui veut faire la guerre. Je prends par exemple le deuxième couplet de l'hymne algérien. Je cite « Ô France, voici le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi ». C'est comment accepter d'avoir une bonne relation avec un pays qui nous dit en fait qu'il veut faire la guerre, se venger, encore 63 ans après l'indépendance. Ce pays en fait se crée par une opposition à la France, pas par ses propres qualités. Il en a énormément, que ce soit par son héritage, certes, ses paysages, sa population, son développement, son économie, ses hydrocarbures. Et ce pays ne se crée qu'en opposition à quelque chose, contrairement aux anciennes colonies qui ont gardé de bien meilleurs liens avec la France, comme le Maroc, par exemple. Donc... Et je crois en fait que même la lenteur de la réaction, ça pourrait aller plus vite, montre une peur d'Emmanuel Macron. De quoi a-t-il peur? Alors que la France domine sur tous les sujets dans le cas de conflit face à l'Algérie, même si on achète du gaz, 12% de notre gaz chez eux, on trouvera un autre pays à qui l'acheter. Donc je crois que Macron a, en fait, a même peur d'une une guerre civile sur le territoire. Parce que qu'est-ce qu'il attend pour aller plus loin? Comme si l'Algérie était un pays plus fort que nous. Non, il faut être très ferme, continuer sur la ligne Rotaillot, qui est le chef de l'État actuellement, de fait, en fait.
Oula, vous allez loin, là. Mais en tout cas, ce qu'a décidé Emmanuel Macron, l'expulsion là, des 12 agents algériens, est-ce que ce serait le premier acte, selon vous, d'un retour à la fermeté vis-à-vis d'Algérie?
Oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres conséquences, vengeance, etc. Donc, rappel d'ambassadeur, c'est aussi évoqué. Jusqu'où ça ira, incertitude.
Alors après, je ne sais pas s'il faut parler de l'Algérie en général, du pouvoir algérien actuel, lorsque vous parlez de ce couplet là, de l'hymne algérien. Nadia Karfala, vous êtes franco-algérienne, c'est pas un secret, hein, on va le dire, comme Boualem Sansal d'ailleurs. Et alors vous, qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel épisode et de la décision qu'a prise Emmanuel Macron?
Je pense que alors déjà, je voulais revenir. On compare souvent l'Algérie aux autres pays colonisés, notamment par avoir le Maroc. Le Maroc était un protectorat, l'Algérie était un département français.
Oui.
D'accord.
Il y en avait même quatre.
La sortie et l'indépendance créée s'est faite par une guerre dont on n'a pas parlé pendant des années. Je tenais quand même à le recontextualiser.
Il n'a pas été appelé guerre pendant des années.
Ouais, exactement.
Parlez des
événements d'Algérie. Donc voilà, recontextualisons déjà cette espèce de passé colonial de 130 ans de colonisation qui
depuis 63 ans effectivement qui ont laissé
des traces profondes dans nos accords et dans la manière dont on interagit. On ne peut évidemment pas revenir sur les accords de 68 puisque en fait depuis 62 par une volonté de Bruno Retailleau notamment de faire de la diplomatie à coup d'éclat médiatique, a réussi à tendre d'autant plus les relations franco-algériennes et qui s'est substitué à Jean-Noël Barrot quand même. C'est fascinant puisque je ne savais pas que le ministre de l'Intérieur était également ministre des Affaires étrangères. Donc, qui a voulu se substituer et a voulu monter en épingle toute une affaire alors que la diplomatie doit se faire déjà par le ministère des Affaires étrangères et également par les diplomates et non pas par des espèces de coups médiatiques qu'on a perpétuellement pour avoir une surenchère sur laquelle on est arrivé à l'heure actuelle en disant celui qui va être le plus ferme que l'autre et finalement on se retrouve en fait Bruno Retailleau qui fait sa campagne en France, l'Algérie qui fait sa campagne en Algérie et finalement chacun son épouvantail et on a une rupture totalement du dialogue qui est formé et dont pâtissent énormément de franco-algériens ou de français et algériens. Finalement, ce qu'on peut constater, ce début de distance, puisque Tebboune devait venir quand même il y a quelques mois en France, donc ce n'est pas une rupture, ce n'est pas une volonté de se former contre l'État français, mais Tebboune voulait venir en France, et je pense qu'on ne va pas en débattre ce soir parce que ce n'est pas le lieu, mais Emmanuel Macron a décidé et a formulé du coup un rapprochement avec le Maroc et notamment sur le Sahara occidental, l'Ouest, en le déclarant marocain, qui a crispé déjà une première fois l'État algérien et bien entendu ce à quoi ça a résulté par une condamnation de Boualem Sansal de 10 ans. Que nous condamnons et que nous espérons, parce que chacun doit pouvoir dire dans un État démocratique ce qu'il pense, et nous demandons bien entendu la libération de Boualem Sansal, mais que à l'heure actuelle, on est dans une surenchère à celui qui fera le plus fort, et finalement, ceux qui en pâtissent, c'est les habitants et les habitantes de chacun des pays.
Jean-Luc Halimi, je suis sûr que vous suivez ça de près aussi, hein.
Oui. Bon, en ce qui me concerne, à titre personnel, mes parents ont vécu en Algérie.
Oui, c'est pour ça que je pense qu'ils ne pouvaient pas être insensibles à ce qui se passe entre la France et l'Algérie.
Ils n'ont pas attendu 1962 pour partir, et ils sont partis après la guerre, parce que malheureusement, ils ont compris qu'il n'y avait pas d'avenir possible au vu de ce qu'eux-mêmes ont vécu en direct, mais ce n'est pas le sujet donc pour la communauté juive en Algérie. Non, L'Algérie, il y a eu la guerre, il y a eu l'indépendance de l'Algérie. À un moment donné, il y a deux choses. Il faut aller de l'avant. Alors, il y a des blessures, certainement, des deux côtés, mais il faut aller de l'avant. On ne peut pas vivre vraiment totalement dans le ressentiment. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, mais c'est encore là une incohérence, a parlé de rente mémorielle. Et c'est vrai que beaucoup de dirigeants ont vécu. Alors, aujourd'hui, l'Algérie, on ne peut pas imputer toutes les difficultés, tous les échecs à la France, l'ennemi. Moi, je suis désolé, vous avez eu raison de parler
de l'hymne,
oui, puisqu'il a été rajouté volontairement il y a à peine quelques années. Hein,
c'est pas quelque chose.
C'est bien une volonté. Et donc là-dessus, l'Algérie est un pays qui a quand même une population très jeune, très dynamique. Il a des ressources naturelles. Il faut aller de l'avant. On ne peut pas vivre dans le ressentiment, dans un narratif finalement qui enferme, qui empêche le développement. Alors moi, je suis désolé de cette situation, mais on a oublié une chose très simple, c'est que dans les rapports internationaux, ce qui compte, ce sont les rapports de force. Et ça, pour l'avoir oublié, alors de temps en temps Trump dans d'autres cas de figure le rappelle. Des fois c'est violent, des fois c'est choquant, mais ce sont les rapports de force. Et là, il y a eu réellement de la part du président Tebboune de son régime. Donc cet acte insensé, donc ça fait mal au cœur de savoir que depuis 5 mois, quelqu'un, cet intellectuel de haut niveau qui adore la France, qui adore la langue française, est en train de mourir dans la prison. Et pourquoi ? Bon, pour avoir dit les choses. Et donc on a oublié ces rapports de force. Donc moi je dis que la situation aujourd'hui, elle signe l'échec d'une politique de capitulation. Là, on ne peut pas dire un discours et un autre. Quand un pays, que ce soit l'Algérie ou un autre, a un comportement, aussi agressif, il faut en tenir compte. Et puis, il y a des règles qui s'appliquent, c'est ce qu'on appelle les rapports de force. On essaye de discuter, toujours discuter au départ. Et si visiblement, il n'y a pas. Et là, il y a eu des choses absolument inacceptables. C'est un échec d'une politique de capitulation, puisque vraiment, Retailleau a eu une position, elle a été rejointe, on ne comprend pas, par le Premier ministre, qui a dit il faut absolument que Boualem Sansal soit libéré. Donc on donne 6 semaines, il n'y a pas établi un ultimatum sous 3 jours ou une semaine. Et puis après, plus rien. Après, là-dessus, Macron est arrivé en disant de toute façon, tout ça, 68, on n'en parle même pas, parce que c'est pas le sujet. Et puis, il ne s'est rien passé. Et à un moment donné, effectivement, ce qu'on discutait, on se demandait qu'est-ce que Retailleau faisait encore au gouvernement. Et puis là, aujourd'hui, il a fallu que l'Algérie, alors qu'on pensait qu'on allait vers une libération de Boualem Sansal et que les choses allaient s'arrêter, a eu un comportement à laquelle on répond. Mais la France répond tardivement. Et je trouve que ça n'est pas à l'avantage de la France qu'à l'avantage de l'idée qu'on se fait d'un pays qui doit se respecter, quel qu'il soit, vis-à-vis d'un comportement, aussi agressif. Il y a des leviers dont on dispose, sur l'accord de 68, sur les visas, sur les avoirs. Et entre deux pays, ces leviers sont toujours disponibles. Et on ne peut pas ne rien faire en espérant. On n'est pas dans le monde des bisounours pour espérer qu'en étant gentil avec un pays, que ce soit l'Algérie ou un autre, les choses vont se calmer. Et je rajoute une dernière chose, donc je répète, on a oublié que les rapports de force, drive, dirigent les relations internationales, qu'on le veuille ou non. Et il y a quand même une chose qui ne peut pas être acceptée ni tolérée, c'est lorsque l'Algérie a demandé à ce qu'il soit défendu par un avocat qui ne soit pas juif.
Oui.
Là, ça montre encore un autre aspect qui ne m'a pas surpris, que d'autres gouvernements antérieurs avaient eu déjà ce genre de comportement. Ça n'a pas ému grand monde. C'est passé comme une lettre à la poste. Donc ce n'est pas un juif qui le défend. Très bien. Mais ça a dit beaucoup de choses quand même. Donc là, je dirais, c'est un début de réaction. Donc c'est du un pour un. Ils en expulsent tous, on en expulse tous, d'accord. Mais enfin, on ne peut pas dire que la France, aujourd'hui, en sort grandie. Aujourd'hui, pour moi, clairement, le maître du jeu, c'est le président Tebboune. C'est lui qui fixe les règles, c'est lui qui fixe le tempo.
Vous voulez dire qu'on est tout le temps en réaction, mais qu'on n'est pas dans l'action.
Absolument,
en fait.
Absolument. Donc aujourd'hui, je dirais, c'est plutôt, jusqu'à maintenant, une victoire diplomatique pour le président d'un régime quand même assez particulier de l'Algérie. Et ce n'est pas à l'honneur de la France, malheureusement.
Pierre Lafond.
Oui. Nadia, il vous a pas échappé que un des éléments de la crise est la non-résolution des OQTF dont Bruno Retailleau a la charge. Et l'Algérie ne respecte pas le droit de récupérer ses
ressortissants. Qui ont des conséquences à l'intérieur en France.
Voilà, c'est inadmissible. La symbolique de Boualem Sansal enfermé, elle est très rapide. La France, c'est la patrie des Lumières avec ses écrivains. L'Algérie les enferme. C'est pas du tout flatteur pour ce pays qui mérite bien mieux, je crois. Et ensuite, la France n'a sûrement pas à s'excuser de quoi que ce soit. Soyons fiers de notre histoire. La France a contribué au développement de l'Algérie considérablement par ses ponts, ses hôpitaux, ses ports, toute l'architecture haussmannienne. Et rappelons aussi l'origine de la colonisation de l'Algérie, qui était la lutte contre les barbaresques, c'est-à-dire des pirates qui asservissaient des Européens en Algérie. Il a fallu régler ce problème-là. Donc la France n'a pas à s'excuser. Macron a dit que la France a fait un crime contre l'humanité. C'est inadmissible et c'est insulté tous les Français qui ont vécu en Algérie. Et je crois que les Algériens, encore une fois, auraient beaucoup plus à gagner en se projetant sur l'avenir avec l'héritage que la France leur a donné et leurs propres particularités. Et tout ira très bien pour eux dans leur avenir.
Nadia Garfalas, je vous donne le mot de la fin.
Oui. Alors déjà, je ne comprends pas comment encore, et à l'âge de 25 ans, on peut tolérer des propos de colonisation et justifier la colonisation. Aucune colonisation n'est justifiée. Cet discours colon de dire que nous avons apporté la science, les hôpitaux et les autoroutes, je pense très sincèrement qu'il faut faire très attention avec ce type de discours.
Il y avait quoi avant en Algérie ?
Je vous ai laissé parler. Vous me laissez finir. Merci.
Il nous reste une peine.
Non, c'est de la faute de Bruno Retailleau qui n'a pas réglé, et c'est un problème qui n'est pas réglé et qui revient dans des regains très d'extrême droite que nous retrouvons à l'heure actuelle, et notamment et Pradier quand même, et Aurélien Pradier quand même le dit que Bruno Retailleau tient des propos racistes et a une idéologie quand même qui s'assimile à celui du fascisme. Je pense qu'en effet, Bruno Retailleau n'a pas réglé son histoire avec l'Algérie, n'a pas digéré et a quand même des relents colon, et de tolérer ce genre de propos. Et j'estime encore que la diplomatie ne doit pas se faire en surenchère, ne doit pas se faire à coup d'éclat médiatique, mais que la diplomatie doit se régler, notamment par les diplomates et par le ministère des Affaires étrangères.
Je pense qu'un jour, il faudra qu'on fasse une émission sur l'histoire de l'Algérie et aussi sur l'histoire d'Israël, d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont peut-être pas tout à fait au courant de tout ça. Cette 191e mêlée de l'info est terminée. Merci à tous les trois d'y avoir participé. Eh bien, bravo à Nadia Carfala pour ses débuts dans l'émission. Je vous ai trouvé très pugnace. Bravo.
Merci.
Et vous réinviterez avec beaucoup de plaisir si ce souhait est partagé,
bien sûr.
Je remercie aussi Yannick Gallupini qui a réalisé ce numéro. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci enfin à tous ceux qui nous ont écoutés, aux fidèles et aux nouveaux auditeurs de cette émission. Bon week-end de Pâques, à la semaine prochaine.